Voici une émission dont la réponse pourra changer notre manière de penser. Est-ce que Dieu peut être dans l'erreur parfois? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous aidera à marcher en cadence avec le reste de l'univers aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui, alors les voici sans plus tarder. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant l'élection de ses enfants? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Est-ce que Dieu peut se tromper? Qui gouverne l'univers? Est-ce que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait? Est-ce qu'on a la liberté de dire oui ou non quand Dieu nous appelle à lui? Comment se fait-il qu'une personne bien ordinaire peut prêcher la parole de Dieu avec puissance de manière à ce que des vies soient transformées? Est-il nécessaire que la parole de Dieu soit prêchée? Est-il possible d'éprouver de la joie et de l'affliction en même temps? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Dieu trois fois saint, c'est avec humilité qu'on vient dans ta présence pour te demander de transformer nos vies à travers tout ce bel enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Touche nos cœurs par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné les trois vertus chrétiennes, la foi, l'amour et l'espérance. Nous avons dit que la foi est une réaction à la proclamation de la parole de Dieu. Nous croyons ce que Dieu dit et nous agissons en conséquence. D'ailleurs, la Bible emploie l'expression « foi agissante ». Dans son épître, Jacques, le frère de Jésus, a expliqué que la foi produit des œuvres. La foi se manifeste par notre comportement et par nos œuvres. Une foi sans œuvre est morte, c'est-à-dire non existante. Marcher par la foi, c'est obéir à Dieu. Nous avons aussi expliqué que celui qui aime Dieu le sert sans que cela soit un fardeau. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Tout comme la foi, l'amour de Dieu est inséparable de l'obéissance à Dieu. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous désirons lui faire plaisir. Notre relation avec Dieu n'en est pas une de maître-esclave, mais de père-fils. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le chrétien a aussi une espérance ferme. En effet, l'homme ne peut pas résoudre les problèmes sociaux, économiques, politiques et environnementaux de cette planète. Il est beaucoup trop égoïste et il cherche uniquement ses propres intérêts. Notre seul espoir est Dieu qui a l'intention de réunir toutes choses en Christ Jésus. Un jour, le Seigneur Jésus reviendra et il rétablira toutes choses. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour ceux qui lui appartiennent. Nous reprenons notre étude de la première épître aux Thessaloniciens à partir du 4e verset du 1er chapitre. Chers amis, faisons la lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Laissons Dieu nous parler. Nous allons de nouveau traiter le sujet de l'élection. Nous en avons parlé lors de l'étude de l'Épître aux Éphésiens. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Lorsque nous traitons de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, nous traitons de la solution de Dieu au péché dans le monde et au péché dans nos cœurs individuels. Dieu désire tout réunir en son Fils bien-aimé. Nous devons donc aborder un sujet difficile, telle élection, avec beaucoup de révérence et demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Dieu ne nous parle pas de l'élection pour que nous en fassions un sujet de discussion houleuse. Nous sommes devant un sujet qui nous dépasse, car nous ne pouvons pas comprendre entièrement la pensée éternelle de Dieu. Nous devons accepter sa révélation et écouter attentivement ce que Dieu nous dit. L'apôtre Paul ne craint pas d'aborder le sujet de l'élection avec les croyants de Thessalonique. Il présente le sujet du point de vue de Dieu. Nous ne regardons pas les choses à partir du ciel et nous ne le ferons jamais tant que nous serons sur terre. Cependant, nous devons identifier certains axiomes, c'est-à-dire des éléments de vérité que nous devons accepter sans pouvoir les prouver. Cela se fait couramment en géométrie. J'accepte le fait que deux lignes droites ne peuvent que se rencontrer à un seul point. Je crois que le parcours le plus court entre deux points est une ligne droite. Nous acceptons ces faits sans les contester, sans en exiger une démonstration. Il en est ainsi de l'élection. L'apôtre Paul affirme qu'il y a eu une élection, mais il n'essaie pas de le démontrer. Il présente la doctrine comme un simple fait. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est ce que Dieu nous a révélé. Le Créateur est le souverain de l'univers. Le Créateur a tous les droits d'un souverain. Les puritains reconnaissaient la souveraineté de Dieu. Cette croyance avait un impact sur leur vie quotidienne. C'était le fondement de leur façon de vivre. Derrière l'élection et toute la vie se trouve la souveraineté de Dieu. Le Créateur règne et il a les droits d'un souverain. Nous devons reconnaître que Dieu est le Créateur de l'univers. Je ne me demande pas comment il l'a fait, et je ne m'inquiète pas de répondre à toutes les objections au récit de la création dans la Genèse. Je veux simplement souligner le fait qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Certaines personnes sont prêtes à reconnaître Dieu comme Créateur, mais elles contestent son droit de régner sur l'univers. Elles nient qu'il ait le droit de donner un sens à sa création. Permettez que je vous dise que nous vivons dans un univers créé par Dieu dans le but de le glorifier. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Citation de Matthieu chapitre 5, verset 16. Il n'a pas dit que nos bonnes œuvres devaient nous glorifier. Elles doivent glorifier le Père céleste. Je vous le dis spécialement à vous qui êtes chrétiens, Dieu est le Créateur et cet univers existe pour le glorifier. Il est Dieu et il n'y en a pas d'autre que lui. Il ne consulte pas qui que ce soit lorsqu'il prend une décision. Il gouverne cet univers pour accomplir ses propres buts et il le dirige pour sa plus grande gloire. Nous vivons dans un univers centré sur Dieu, un univers théocentrique. L'univers n'est pas centré sur l'homme, il n'est pas anthropocentrique. De plus, l'univers n'est pas géocentrique, c'est-à-dire que la Terre n'en est pas le centre. L'univers est centré sur le ciel. Il appartient à Dieu qu'il gouverne selon son bon plaisir. Dieu n'est pas un tyran, mais il est juste et saint. Aujourd'hui, nous avons besoin de souligner une autre chose. Dieu n'est pas un tyran. Dieu est juste et saint. Tout ce que Dieu fait est bien. Vous ne le pensez peut-être pas toujours, alors j'ai une nouvelle pour vous. Si vous ne pensez pas que Dieu est juste dans ses actions, si vous ne pensez pas que Dieu a établi le meilleur plan, alors vous êtes dans l'erreur. Dieu ne se trompe pas. C'est vous qui êtes dans l'erreur. C'est votre façon de penser qui doit être corrigée, sinon vous ne marchez pas en cadence avec le reste de l'univers. L'univers existe pour Dieu, sa gloire, et pour atteindre ses buts. Rien ne se produit qui ne contribuera pas à sa gloire. C'est lui qui gouverne l'univers présentement. Dieu gouverne l'univers. J'aimerais que nous nous arrêtions sur une autre question. Avez-vous déjà réfléchi au fait que vous soyez né? Nous aurions pu ne jamais exister individuellement. Dieu n'est pas venu me demander, « Régent Joly, aimeriez-vous venir en existence? Désirez-vous que je vous crée? » Puisque je n'existais pas, Dieu ne pouvait pas me poser la question ou me donner le choix. C'est lui qui a pensé à me créer et qui m'a fait tel que je suis. Il est responsable de mon existence. Il ne m'a pas demandé si je voulais être un homme ou une femme. Il ne m'a pas demandé à quelle époque je désirais naître. Il ne m'a pas fait choisir mes parents. Il ne m'a pas demandé de décider si je voulais des parents chrétiens ou encore des parents riches. En fait, ils n'ont été ni l'un ni l'autre. Dieu gouverne l'univers aujourd'hui parce que celui-ci lui appartient. Vous n'aimez peut-être pas cela, mais il en est ainsi. Dieu n'est pas un tyran. Il ne choisit pas une personne contre son gré et il ne rejette pas une personne contre son gré. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. L'apôtre Paul a posé cette question. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il y répond lui-même, très catégoriquement, loin de là. Citation de Romains, chapitre 9, verset 15. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Nous devons reconnaître que nous sommes de simples créatures. Nous ne sommes pas seulement des créatures, mais nous sommes des créatures perverties. Je sais que ce que je dis n'est pas populaire de nos jours. Nous aimons nous flatter mutuellement afin d'augmenter notre estime de soi. C'est pourquoi toutes sortes de clubs donnent différentes récompenses et trophées pour de multiples raisons. Les humains doivent faire cela afin de croire qu'ils sont extraordinaires. En réalité, nous sommes en rébellion contre Dieu. Relisons le verset 4, toujours de 1 Thessaloniciens chapitre 1. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Peut-être n'aimez-vous pas ce verset, mais c'est ainsi que ça s'est passé et que ça se passe encore aujourd'hui. Dieu gouverne l'univers, et plutôt que de vous opposer à sa parole et à ses lois, je vous recommande de vous soumettre à lui et de le remercier pour vous avoir donné la vie, ainsi que l'occasion d'exercer votre libre arbitre pour revenir à lui. Son invitation tient toujours. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Avez-vous soif spirituellement? Alors, venez à Jésus-Christ. Il est prêt à vous recevoir et à combler le vide de votre âme. Vous dites que vous n'avez pas soif? Alors, oubliez tout. Dieu propose un salut complet gratuit à ce monde perdu. Il nous dit que c'est à prendre ou à laisser. C'est à ce point que notre liberté entre en jeu. Nous pouvons rejeter l'offre de salut ou l'accepter. Il n'y a pas de troisième voie. On ne peut pas se tenir à cheval sur la clôture. Chacun a la liberté de dire oui ou non. Maintenant, passons au verset 5, un autre verset merveilleux. Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. La parole de Dieu est un instrument entre les mains de l'Esprit. L'apôtre Paul dit, « Lorsque nous étions parmi vous, vous avez constaté que nous étions des êtres humains comme vous, et... nous vous avons parlé avec des lèvres et des langues humaines. Nous ne pouvions que prononcer des mots, mais nous vous avons proclamé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous a été prêchée, non seulement en parole, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, à cause de ce fait, j'ai l'emploi le plus merveilleux au monde. Je l'aime. J'aime enseigner la parole de Dieu. Désirez-vous savoir pour quelle raison j'aime cela? Lorsque j'annonce la parole de Dieu, bien que ce ne soit que des mots qui sortent de la bouche de Régent Joly, l'Esprit de Dieu saisit ces mots et leur donne une puissance divine. Le prédicateur radiophonique J. Vernon McGee a reçu une lettre d'une auditrice. Elle lui a raconté que la première fois qu'elle a écouté l'émission de McGee, son mari a critiqué le prédicateur en termes peu polis. Elle a continué d'écouter le programme. Et un jour, son mari a exprimé son désaccord avec le message de McGee. Un jour, Elle a oublié d'allumer la radio pour écouter le programme, mais son mari lui a rappelé que c'était l'heure de l'émission et il a écouté l'émission. Puis un jour, son mari s'est agenouillé près de la radio et il a reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. En relatant cet incident, Maggie a dit « Ne pensez pas que cela s'est produit parce que je suis un super vendeur. Vous vous trompez. Je ne suis pas un vendeur. Je ne pourrais même pas distribuer des billets de 5 aux gens car ils croiraient que ce sont des faux. » Ce qui est extrêmement merveilleux, c'est de voir que l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu. C'est ce qui nous donne de l'assurance. La parole de Dieu est une puissance transformatrice. Maintenant, écoutez-moi bien. Je crois que la Bible est la parole de Dieu et que les textes originaux sont libres de toute erreur. Dieu nous parle par sa parole infaillible, la Bible. Cependant, je ne m'arrête pas là. Je crois aussi que l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur et notre vie à la parole divine de sorte qu'elle transforme nos vies. Ce n'est pas les humains puissants qui produisent la nouvelle naissance. Ce n'est pas prononcer quelques paroles à la radio et d'en inscrire sur une feuille de papier qui transforme les vies. Les croyants ont été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je viens de vous citer 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. L'Esprit de Dieu peut ouvrir nos yeux et notre cœur à la parole de Dieu et s'en servir pour transformer notre vie. Je crois que la parole est puissante pour faire une telle chose. Je ne crois pas que l'Esprit de Dieu pourrait faire cela avec le bottin téléphonique, le catalogue Sears ou un magazine populaire. Cependant, je crois que l'Esprit de Dieu peut faire des grands miracles avec la parole de Dieu, soit la Bible. En fait, j'ai été témoin de nombreux miracles. La Bible transforme un pécheur perdu en un enfant de Dieu. La parole de Dieu est parvenue à Thessalonique, une colonie romaine païenne, sous le contrôle d'une puissance politique et militaire. Dans cette ville, la parole a transformé des cœurs et des vies. Cela s'est produit à Thessalonique et se produit encore aujourd'hui. L'Esprit utilise toujours la Bible pour toucher des cœurs. Je répète le verset 5 parce qu'il est très important. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. La parole de Dieu doit être prêchée. Il est donc nécessaire qu'une personne entende la parole de Dieu. C'est fondamental. Les gens doivent entendre la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Citation de Romains, chapitre 10, verset 17. Ceci est la partie naturelle du processus, mais il ne s'arrête pas à ce point, parce que la Bible est un livre surnaturel. Sans le Saint-Esprit, la Bible n'est que des mots. Avec le Saint-Esprit, la Bible devient la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Jésus-Christ avait enseigné que l'Esprit-Saint ferait cela. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'Évangile selon Jean, chapitre 16, les versets 7 à 11. Revenons à la lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens. Lisons, chapitre 1, verset 6 de cette première lettre. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » L'apôtre Paul pouvait citer Sylvain, Timothée et lui-même en exemple. Qu'en est-il de vous? Quelle sorte d'exemple êtes-vous? La vie chrétienne peut être à la fois douce et amère. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. L'affliction, c'est-à-dire la souffrance et la joie, sont aux antipodes. Ils sont éloignés l'un de l'autre autant que l'Ouest l'est de l'Est. Ces deux ne font pas la paire. Ils sont opposés autant que la nuit l'est du jour et la chaleur l'est du froid. Nous n'associerions pas ces deux mots ensemble. Si une personne est dans l'affliction, elle peut difficilement éprouver de la joie selon notre point de vue humain. Si une personne est joyeuse, elle ne souffre certainement pas. Cependant, des chrétiens ont connu beaucoup d'afflictions tout en éprouvant dans leur cœur la joie que Dieu donne. C'est un véritable triomphe. Nous entendons beaucoup parler de guérison aujourd'hui. Et je loue Dieu pour des chrétiens que je connais et qui ont été guéris en réponse à la prière. Cependant, je connais des chrétiens qui aiment profondément le Seigneur et qui souffrent car la maladie les cloue au lit. Cependant, ils éprouvent de la joie dans leur cœur parce qu'ils connaissent le Seigneur. Je ne connais pas personne qui jouit des divertissements du monde et qui souffre en même temps. Le monde ne peut pas connaître les deux en même temps. L'apôtre Paul dit que les Thessaloniciens ont reçu la parole dans l'affliction. Ils ont été persécutés et ils ont souffert. Cependant, le Saint-Esprit leur a permis de goûter à sa joie. La vie chrétienne peut être à la fois douce et amère. Une femme célèbre pour sa poésie était membre de l'église de J. Vernon McGee. Celui-ci a eu le privilège de la baptiser. Elle a été baptisée dans une baignoire car elle ne pouvait pas être amenée ailleurs. Lorsque McGee l'a touchée, elle a crié car elle éprouvait une douleur continuelle. Elle a donné une copie d'un de ses livres de poésie au pasteur McGee. Le titre anglais était « Heart Held High », le cœur joyeux. Malgré la douleur provoquée par sa maladie, elle connaissait la joie du Seigneur. McGee a dit, « Lorsque je la quittais à la fin d'une visite, j'avais toujours l'impression que c'est elle qui m'avait encouragé. » Je n'ai jamais eu l'impression d'être un grand encouragement pour elle. C'est merveilleux de voir un chrétien ou une chrétienne qui se réjouit dans le Seigneur malgré sa souffrance intense. Mes amis, sur cette terre, nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Maladie, pauvreté, injustice, querelles, problèmes familiaux. Nous sommes dans un monde cruel et injuste, et les chrétiens n'échappent pas à la souffrance. En fait, devenir chrétien attire souvent la persécution. Cependant, le chrétien a le privilège de connaître une joie profonde malgré sa souffrance. En effet, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, la relation entre nous et Dieu est rétablie. Il comble le vide de notre âme et il nous révèle son amour pour nous. L'amour de Dieu n'est plus un concept théologique ou abstrait, mais quelque chose que nous expérimentons. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 5 à 10. Bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as mentionné que lorsque tu annonces la parole de Dieu, bien que ce ne soit que des mots qui sortent de ta bouche, l'Esprit de Dieu saisit ces mots et leur donne une puissance divine. Et je sais que tu dis vrai. Je t'ai souvent entendu prêcher à des groupes d'enfants de Dieu et j'ai pu à plusieurs reprises voir la puissance de Dieu à travers tes prédications. Aussi, je t'ai entendu appeler des pécheurs à la repentance et au salut par la foi en Jésus-Christ. Et ces mots, tout simples, ont touché des cœurs et transformé des vies. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi qui produit cette puissance. Mes amis, quelle joie pour un enfant de Dieu de pouvoir expérimenter la puissance de l'Esprit-Saint. Et je sais que tous les enfants de Dieu qui annoncent l'Évangile peuvent se réjouir de cette manifestation. Par exemple, lors des déjeuners de l'espoir, je fais mon témoignage, je raconte ma vie aux gens qui assistent à ces événements, et quand j'arrive à la période de ma vie où Dieu m'a convaincu que j'étais une pécheresse perdue, que j'avais besoin de me repentir, de placer ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés, pour le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, je me sens littéralement transportée par l'Esprit de Dieu. Et il sort de ma bouche des paroles que je n'ai pas planifiées, des paroles qui viennent de ma connaissance de la Bible, mais inspirées sur le champ par l'Esprit de Dieu qui habite en moi depuis le jour où j'ai reçu le salut. Quelle joie! Quelle joie de savoir que Dieu se sert de moi, faible créature, pour appeler les gens à recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et toi, mon ami, as-tu reçu ce cadeau de Dieu? Je t'assure que c'est gratuit. Dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, versets 23 et 24, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. De nos jours, mon ami, c'est très rare que quelqu'un nous offre quelque chose gratuitement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même t'offre la vie éternelle gratuitement. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 6, le Seigneur dit qu'à celui qui a soif, il donnera de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et au chapitre 22, verset 17, il dit « Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Mon ami, c'est à toi que Dieu s'adresse dans sa parole. Et c'est son esprit qui veut présentement te convaincre de te repentir, de changer de direction à l'égard du péché, de te tourner vers Jésus, celui qui a tant souffert pour nous, les pécheurs. Celui qui est mort sur la croix pour payer la dette qu'on avait tous envers Dieu pour nos péchés. Mon ami, Jésus a subi la condamnation qu'on méritait tous, une fois pour toutes. Et maintenant, tu n'as qu'à lui demander de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire. Attends pas à demain. Tu sais même pas si tu vas vivre demain. Tourne tes regards vers Jésus. Vois avec ton cœur ses bras qui sont grands ouverts pour t'accueillir, pour te donner la vie éternelle dès maintenant. Tu vas déjà goûter que tu es un enfant de Dieu et il va te transporter dans le royaume, dans son royaume pour l'éternité. Alors, reçois Jésus comme ton sauveur. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.